Dans un zoo, les petits enfants entreraient volontiers dans la cage au lion pour caresser ce gros chat. Curieux de nature, ils veulent tout voir et toucher, mais ne sont pas conscients du danger. À tout âge, il y a des activités auxquelles il est préférable de ne pas s'adonner et des endroits où il vaut mieux ne pas se rendre. Il en est d'autres, cependant, où il fait bon aller. Tout ce qui est du domaine occulte et spiritisme, par exemple, est à éviter comme la peste, parce que c'est le terrain de jeu du diable. Par contre, venir auprès du Dieu unique et vrai par l'intermédiaire de Jésus-Christ, c'est trouver le pardon et la vie. Je continue à lire dans le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. Vous vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Verset 23. L'auteur a choisi d'utiliser un verbe grec qui signifie « s'approcher, aller vers, arriver à », mais il ne dit pas « vous faites partie de l'assemblée des fils premiers-nés », parce qu'il s'adresse à un mélange de gens, des Hébreux dont certains étaient arrivés à destination. C'étaient d'authentiques croyants, tandis que d'autres avaient encore un bout de chemin à faire. L'assemblée des fils premiers-nés désigne la multitude des croyants, frères et sœurs du premier-né par excellence, Jésus-Christ. Parce que le premier-né avait droit à une double part d'héritage, cette expression met l'accent sur le patrimoine que recevront les élus. L'apôtre Paul écrit « Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et donc co-héritiers du Christ, l'aîné de nombreux frères. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont également inscrits dans les cieux, c'est-à-dire dans le livre de vie » ou « Livre de vie de l'agneau ». Une fois Jésus a dit à ses disciples, « Ce qui doit vous réjouir, c'est de savoir que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Quand on s'approche de Dieu, on arrive devant le juge des vivants et des morts. L'auteur rappelle que l'une des prérogatives du Créateur est de juger les hommes, et personne n'échappe à ce rendez-vous fatidique. Cependant, ceux qui ont placé leur foi en Jésus ont déjà été jugés avec lui sur la croix. Donc, quand ils arrivent devant le juge de tous les hommes, leur casier judiciaire est vierge. Toutes leurs fautes ont été effacées par le sang du Christ. Les esprits des justes parvenus à la perfection sont les croyants de l'Ancien Testament. Quand ils mouraient, ils allaient au paradis qui était une sorte de salle d'attente où ils attendaient que Jésus meure pour les péchés du monde et donc les leurs, suite à quoi ils pouvaient entrer dans la présence de Dieu. Au moment où Jésus a expiré, le voile qui dans le temple barrait le lieu très saint où était Dieu s'est déchiré de lui-même de haut en bas, signifiant par là qu'il était désormais possible à tout homme d'avoir accès à Dieu. À cet instant, tous les croyants de l'Ancien Testament ont été rendus parfaits en Jésus-Christ et donc glorifiés. Sous la Nouvelle Alliance, celui qui croit en Jésus est immédiatement considéré par Dieu comme parfaitement juste. Je continue le texte. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle plus avantageusement que celui d'Abel. Verset 24. Quand Joseph réfléchissait comment rompre discrètement avec Marie qui était enceinte, l'ange lui a dit « L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Le Fils de Dieu a été appelé Jésus parce que ce nom veut dire « l'Éternel sauve ». Jésus est notre intermédiaire. L'apôtre Paul écrit « Il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Grâce à lui, il n'y a plus de tonnerre et d'éclair, plus de ténèbres et de jugement. » Quand l'homme s'approche de Dieu par le truchement du Christ. Le sang répandu de Jésus a fait l'expiation des péchés et c'est grâce à son sacrifice qu'il est possible d'obtenir le pardon. Abel est mort victime de la méchanceté de son frère et son sang criait vengeance. Jésus aussi est mort suite à la méchanceté de ses frères, les Juifs, mais son sang couvre les péchés de tous les hommes, de tous les temps qui se confient en lui. Au lieu de crier vengeance, juste avant de mourir, Jésus a prié « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare ici concernant la médiation et la rédemption de Jésus sert à confirmer et appuyer l'exhortation du début de ce chapitre quand il a dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection ». Quelqu'un a même dit que le christianisme se résume à garder les yeux fixés sur Jésus. C'est vrai, et l'apôtre Paul enseigne qu'il suffit de croire en lui pour obtenir la vie éternelle. Cependant, il ne faudrait pas simplifier à l'excès. Le salut ne se réduit pas à une formule mathématique ou à un examen de passage. Ce n'est pas en répondant correctement à quelques questions qu'on devient un croyant authentique, car c'est le Saint-Esprit et non l'homme qui crée dans le cœur d'une personne la conviction de péché, le besoin d'un sauveur, la foi en Jésus-Christ et la nouvelle naissance. Il y a des gens qui, suite à un contact avec des croyants, disent croire en Jésus parce qu'ils ont levé la main ou signé une carte. Mais très souvent, ils se sont approchés de la vérité, mais n'ont pas encore une foi véritable. Je continue le texte. Prenez donc garde, ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux ? Verset 25. L'auteur revient à la case départ en quelque sorte puisqu'il a commencé cette épître en disant « À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. » Or, s'il était de la plus haute importance d'écouter quand l'Éternel parlait du mont Sinaï, à combien plus forte raison devons-nous tendre l'oreille maintenant qu'il nous parle du haut des cieux de la montagne de Sion ? S'il était crucial d'obéir à la loi, il est encore plus important de prêter attention à Jésus et de croire en lui. Les Israélites qui sont sortis d'Égypte étaient incrédules et donc n'ont pas pu entrer en terre promise. Pareillement, ceux qui aujourd'hui n'écoutent pas Dieu quand il s'exprime par son Fils Jésus n'entreront pas dans le royaume des cieux, la terre promise céleste. Que l'Éternel parle du mont Sinaï ou de la montagne de Sion, ceux qui refusent de l'écouter vont au-devant du jugement, mais il sera pire pour ceux qui refusent d'accepter Jésus. L'auteur a déjà exprimé cette même pensée quand il a dit « Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, si deux ou trois témoins déposent contre lui. » À votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'Alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus sévère encore ? Je continue le texte. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Verset 26. Quand l'Éternel a donné la loi, il a couvert le mont Sinaï de ténèbres et a ébranlé la terre. Quand Jésus était sur la croix, de midi à 15h, toute la région fut dans les ténèbres, et au moment de sa mort, un tremblement de terre a secoué toute la région. À la fin des temps de la montagne de Sion, Dieu ébranlera les cieux et l'univers tout entier. L'auteur cite une parole du prophète Agée que je lis. « Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Une fois encore et dans peu de temps, j'ébranlerai le ciel et la terre, la mer et la terre ferme. J'ébranlerai les peuples et les richesses de toutes les nations afflueront en ce lieu. » Un autre prophète écrit, « J'ébranlerai le ciel et cette terre sera secouée sur ses bases par la fureur de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au jour où il déchaînera son ardente colère. » Et dans le Nouveau Testament, on lit, « Il y eut un violent tremblement de terre, le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. » Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. » Fin de citation. Je continue le texte. Ces mots, une fois encore, signifie que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Verset 27. L'auteur commente ce qu'a dit le prophète Agé et il annonce rien de moins que la destruction de tout ce qui est d'ordre matériel afin qu'il soit remplacé par les réalités spirituelles. L'apôtre Pierre ajoute qu'en ce jour-là, qui sera donc le grand jugement de ce monde, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant, les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Une fois que Dieu aura anéanti cet univers, il le remplacera par une nouvelle création. Je lis le passage. « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. » Et j'entendis une forte voix venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront ses peuples, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Fin de citation. Je continue le texte. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Verset 28. L'héritage des croyants est inaltérable. Jamais ils n'en seront chassés et ils y habiteront pour toute l'éternité. Au vu d'une telle félicité, la seule réponse possible est d'obéir à Dieu et de lui exprimer toute sa reconnaissance dans une attitude d'adoration et de révérence. J'ai encore de gros progrès à faire. Je finis le chapitre 12. « Car notre Dieu est un feu qui consume. » Verset 29. Cette phrase très courte est suffisamment parlante pour faire dresser les cheveux sur la tête. C'est une citation de Moïse quand un peu avant sa mort il a dit « L'Éternel, votre Dieu, est un feu dévorant, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Tel est l'enseignement solennel de la parole de Dieu. C'est un rappel à ceux qui refusent encore de prendre la perche que Dieu leur tend en Jésus-Christ, qu'ils devront subir sa colère et son jugement. Tout au long de cet épître, l'auteur a mis ses lecteurs en garde contre les châtiments divins et ses avertissements sont à prendre avec le plus grand sérieux. L'auteur est inquiet au sujet des Hébreux qui sont assis entre deux chaises et les avertit de ce qui les attend s'ils retournent aux pratiques du judaïsme. En effet, l'objectif de la loi était de condamner l'homme en lui montrant son péché et ne pouvait en aucun cas l'aider à sortir du guépier dans lequel il se trouve englué. Elle avait été donnée pour une époque seulement en attendant la manifestation du Christ. Mais maintenant qu'il est venu, ce temps est révolu et malheur aux Hébreux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui le rejettent au profit des rites désormais vains et néfastes de l'ancienne alliance qui fut établie sur le mont Sinaï. Il en est de même de ceux qui tenteraient de s'approcher de Dieu au moyen de leurs bonnes œuvres ou de pratiques religieuses. Le salut ne se trouve que sur la montagne de Sion, l'endroit qui symbolise la confiance personnelle et exclusive en Jésus-Christ et en rien ni personne d'autre. C'est lui, notre grand prêtre céleste et le médiateur, qui nous permet d'avoir accès au Père, qui, au nom de son Fils, nous offre la réconciliation, la paix et la vie éternelle. Nous arrivons au dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux qui articule une éthique de la vie chrétienne. Après les explications doctrinales des 11 premiers chapitres, l'auteur a fait quelques applications d'ordre général dans le 12e, mais c'est au 13e qu'il s'adresse spécifiquement aux croyants et il est très précis sur la façon dont ils doivent se conduire, sachant que la vraie foi engendre les bonnes œuvres agréées par Dieu. Au 1er siècle, un certain Pline le Jeune avait été chargé d'établir un rapport contre les chrétiens. Mais quand il l'a lu à l'empereur Trajan, il a dit « Ils prennent l'engagement solennel non de commettre quelques crimes, mais de ne se livrer ni au vol, ni au brigandage, ni à l'adultère, de respecter la parole donnée et devant la justice, de ne point nier un dépôt. » En d'autres mots, les chrétiens étaient des citoyens romains modèles qui ne commettaient aucun crime et qui honoraient leurs dettes. Mais ils faisaient tâche quand même parce qu'ils étaient la mauvaise conscience de la société corrompue et débauchée dans laquelle ils vivaient. Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. Le philosophe Bertrand Russell a écrit un essai intitulé « Pourquoi je ne suis pas chrétien ?» dans lequel il décrit des personnes au comportement honteux, mais qui se disaient croyantes. Or, les gens se font une idée de Dieu qui est fonction de la vie de ceux qui prétendent lui appartenir. Je commence maintenant à lire le chapitre 13. « Que votre amour fraternel ne cesse pas de se manifester. » Verset 1. L'amour fraternel est un seul mot en grec et sa translittération est Philadelphie, le nom d'une ville de l'Est des États-Unis. Tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus sont unis ensemble par le Saint-Esprit et forment l'Église universelle du Christ. Les enfants de Dieu sont de nationalité et de couleur de peau différentes, mais devant Dieu, ils sont tous blancs comme neige parce qu'ils ont été lavés de leurs péchés par le sang de Christ. Étant frères et sœurs, l'affection qu'ils se portent mutuellement ne doit pas cesser de se manifester, dit l'auteur. Cette exhortation de persévérer dans l'amour sous-entend qu'il existe déjà. En effet, dès que quelqu'un place sa foi en Jésus-Christ, il se met tout de suite à aimer les autres croyants. C'est sa seconde nature. Cependant, comme un feu, l'amour peut être étouffé ou attisé. Et à ce sujet, l'apôtre Paul écrit « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Les Hébreux croyants manifestaient déjà de l'amour les uns pour les autres, puisque précédemment l'auteur a dit « Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Cet amour se nourrit d'humilité et de sacrifice de soi et consiste à se soucier davantage du bien-être des autres que du sien propre. L'amour fraternel n'est pas une émotion passagère et superficielle, mais une réalité concrète qui se manifeste par un engagement pratique. L'apôtre Jean écrit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Si j'en ai les moyens et que je refuse d'aider un croyant dans le besoin, c'est que je ne l'aime pas. Cela dit, il faut aussi se méfier des exploiteurs de ceux qui disent avoir la foi, mais passent leur vie à faire la manche, essayant de tirer parti du bon cœur des autres. Cependant, et malgré le risque constant de se faire berner, la bonne attitude consiste à vouloir aider d'abord et à poser les questions ensuite. Je continue le texte de l'Épître. « Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car plusieurs, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. » Verset 2. Dans le monde antique, recevoir des étrangers sous son toit était considéré comme une haute vertu. Au premier siècle, les auberges étaient rares, onéreuses et avaient mauvaise réputation. Pour cette raison, les Juifs et les chrétiens dépendaient les uns des autres pour le logement et le couvert. Exercer l'hospitalité est l'un des devoirs des croyants et c'était l'une des conditions requises de ceux qui aspiraient à devenir responsables d'église. L'apôtre Paul va au-delà de l'hospitalité quand il écrit « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » En accueillant trois étrangers qui passaient à proximité de sa tente, Abraham a ouvert sa porte à des anges, l'un étant le Seigneur lui-même. Mais quand il les a reçus, il ignorait leur véritable identité. Il s'est empressé de leur offrir l'hospitalité avant qu'ils ne lui demandent quoi que ce soit. En fait, Abraham considérait que c'était un honneur pour lui de recevoir ces étrangers. Dans une parabole, Jésus a dit « J'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. »